Récit de vie de saint avec Patrick Pailleret.
Bonjour chers amis, comme je vous le disais la semaine dernière, et bien cette semaine nous allons voir comment Catherine vivait dans sa maison. Hein. On a parlé un petit peu de sa charité. Nous aurons l'occasion d'en reparler aujourd'hui, hein, d'approfondir un peu le sujet. Et nous allons parler aussi de ses mortifications, de tout cela. Comment elle vivait chez elle. En fait, pour éviter, si vous voulez, l'assaut des compagnies, puisque c'est une femme de la noblesse, une femme assez aisée, donc quelqu'un qui avait l'habitude de recevoir beaucoup de compagnies, eh bien, pour se retirer un petit peu de toutes ces compagnies, elle avait quitté sa maison, il avait pris un petit appartement en ville, à Vannes. Alors quand je parle d'un appartement, évidemment ce n'est pas un appartement comme aujourd'hui, hein, nous sommes en 1600 et quelques. Hein. Enfin bon, elle a pris un petit appartement en ville. Hein, et alors comme mobilier, qu'est-ce qu'elle avait? Eh bien, elle avait un lit, elle avait une table, deux chaises et une petite bibliothèque. Hein, je vous ai dit qu'elle lisait donc quotidiennement la Bible. Le Saint François de Sales, alors je vous ai dit le traité de la vraie dévotion, c'est l'introduction à la vie dévote. L'introduction à la vie dévote, le château intérieur de Sainte-Thérèse d'Avila, elle lisait aussi Saint-Jean de la Croix, voilà, une petite bibliothèque. Et là, elle menait une vie solitaire, quoi, hein, assez solitaire. Mais les gens la tenaient dans une réelle estime, et sa réputation de piété faisait que les gens de qualité, les gens de sa classe sociale, ben, ils avaient envie de satisfaire leur curiosité, de voir comment elle vivait. Quand on regarde par le trou de la serrure, là, la curiosité, voilà, comment elle fait, comment elle vit, on l'a connue comme ça, elle était riche, elle était belle, et tout ça, et maintenant comment elle vit, on a envie de savoir, bon, voilà. Et puis les gens vertueux, attirés par la vertu, attirés par la sainteté, ben, ils venaient aussi pour s'édifier dans des entretiens avec elle, mais elle s'était retirée pour pouvoir se tourner un petit peu vers Dieu, vers l'étude, vers la prière, vers la mortification, tout cela dans la solitude. Donc sa chambre, c'était un petit peu comme une grotte inaccessible, et puis même ses propres frères, qu'elle aimait pourtant beaucoup, elle ne les recevait que 3 ou 4 fois par an, même bien qu'ils soient venus assez souvent la voir, et qu'elle les aimait tendrement, qu'elle les aimait beaucoup, voilà. Et donc c'est là qu'elle vivait, loin du tumulte de la ville, partageant son temps entre la prière et la mortification, et voilà comment elle organisait son temps. Elle se levait à 5 heures du matin. Alors pour les adeptes du Miracle Morning, vous voyez, se lever à 5 heures du matin, c'est pas nouveau. Hein, là, en 1600 et quelques, ça se faisait déjà. Elle se levait à 5 heures du matin. Donc quand elle habitait chez elle, elle allait à ce moment-là, à 5 heures du matin, elle se levait. Et elle allait à la messe à 8 heures. Hein, voilà, parce que quand elle se levait, elle se préparait à l'horizon et elle se donnait la discipline. Elle se donnait la discipline, c'est-à-dire, en fait, elle se fouettait. Alors ce n'est pas du masochisme, pas du tout. D'une part, c'est le regret des péchés, c'est le regret des péchés même par la pensée, c'est le ne pas se satisfaire de la médiocrité. Et d'autre part, ce que l'on fait pour la gloire de Dieu enrichit et fortifie la foi se développe, les œuvres s'améliorent, les réussites dans ce domaine sont fortement augmentées. Hein, c'est un sacrifice, c'est quoi? Un sacrifice, c'est se priver de l'inférieur pour recevoir du supérieur. Voilà, hein. Donc, il faut bien comprendre, bon, je ne vous dis pas de faire ces mortifications, hein, moi-même je ne les fais pas, mais c'est pour bien comprendre que ce n'est pas du masochisme, ce n'est pas un esprit malsain, c'est voilà, comme les yogis qui s'assiedent sur des planches à clous, qui marchent sur des charbons ardents. Hein, c'est l'esprit qui se sépare de la sensibilité du corps pour se tourner vers Dieu. Voilà. Hein, c'est-à-dire développer le spirituel. Hein, et pour cela, eh bien, comment dire, frustrer, se priver du charnel. Voilà. Hein. Donc à 8h, elle allait à l'église où elle se confessait, elle communiait, elle entendait toutes les messes. Et elle rentrait chez elle vers 1h de l'après-midi. Voilà. Et là, elle s'enfermait, voilà, de 3h à 5h, elle s'enfermait pour faire sa lecture spirituelle. Hein, donc 2 heures de lecture spirituelle. À 5h, elle sortait pour aller devant le Saint-Sacrement et elle priait Dieu jusqu'à vers 6h30. Et puis à 8h, elle assemblait ses domestiques pour aller faire prier en commun. Et après la prière, eh bien, chacun se retirait dans sa chambre et elle restait en méditation ou à lecture jusqu'à 11h, heure à laquelle elle se couchait. Alors elle se donnait la discipline comme cela 2 fois par jour avec une rigueur assez importante et comme les branches étaient armées de rosettes de fer, hein, elle saignait abondamment et malgré les profondes plaies qu'elle se fit ainsi, elle a continué cet exercice rigoureux jusqu'à ce que son confesseur, informé de cet excès de pénitence, de ce zèle, lui commande de se modérer. Ils lui disent non, ça va pas là, ça va pas là. C'est trop, là, c'est pas la peine d'en faire autant. Là. C'est bon. On se calme, là. Vous priez, vous méditez, vous lisez les saints et les Écritures, vous faites la charité. Bon, c'est pas la peine d'aller jusqu'à vous mortifier à ce point, hein, et d'autant qu'elle portait souvent la haire ou le cilice, hein, c'est-à-dire ce sont des vêtements avec des clous tournés vers l'intérieur, toujours cette idée que le dépasser la souffrance du corps pour augmenter l'ouverture du cœur et de l'esprit. Hein, voilà. Il est même arrivé de se rouler nu dans les orties. Alors, c'est quand même terrible. Elle jeûnait, elle jeûnait 4 fois par semaine, hein, plus souvent au pain et à l'eau. Et alors, pour résister à ce qu'elle aimait le plus, elle s'est longtemps abstenue de manger du fruit, alors qu'elle en faisait servir régulièrement à table. Hein, et puis elle s'est abstenue de boire même jusqu'à souffrir d'une telle soif que ça lui a causé une inflammation de la bouche et puis elle lui est arrivée alors qu'elle avait un penchant naturel, enfin oui spontané pour la propreté, et il lui est arrivé pour combattre cette inclination de faire manger dans son plat un mendiant qui était sale, qui était malpropre, qui toussait continuellement, qui crachait, qui était mauvais, ça faisait mal au cœur à ce qu'il voyait. Et elle, voilà, tout cela, elle le faisait pour l'offrir à Dieu. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut en faire autant, hein. Mais l'idée, ce n'est pas du masochisme, c'est vraiment l'idée de l'offrir à Dieu. Hein. Et on verra d'ailleurs les œuvres qu'elle fera qui durent encore aujourd'hui. Alors sa mortification, a été assaisonnée d'onction, de prière, et puis voilà, dans quelques églises où le sacrement fut exposé, elle y allait, elle passait à ce moment la journée en oraison, les genoux à terre, et puis voilà, tous les samedis, elle visitait à pied l'église de Notre-Dame de Bethléem, hein, qui était distante quand même de quelques kilomètres de Vannes, elle y allait à pied, évidemment, et rarement, elle passait un mois sans faire aussi à pied le pèlerinage jusqu'à Sainte-Anne-d'Auray, à plusieurs dizaines de kilomètres de Vannes, et elle y allait en silence, elle faisait l'aumône à tous les pauvres qu'elle rencontrait en chemin, hein, et puis voilà, et puis en revenant, après une courte récréation, elle reprenait ses prières, et voilà. Alors elle voyageait souvent en compagnie de prêtres vertueux, et elle avait avec eux des échanges, des discussions sur les saints, sur Jésus, sur la Vierge, voilà. Elle laissait toujours des aumônes importantes dans les chapelles qu'elle visitait. Elle offrait des calices, même d'une valeur, alors on dit de 50 écus, alors je ne sais pas combien ça fait en euros, mais voilà, quand elle... quand elle apprenait que une jeune fille, par exemple, se prostituait pour arriver à manger 3 morceaux de pain, eh bien écoutez, elle donnait une pension à la jeune fille. Quand elle voyait des parents qui ne pouvaient plus s'occuper de leurs enfants, qui étaient trop pauvres, et les enfants qui tombaient un peu dans le n'importe quoi, elle donnait une pension aux parents. Il lui est arrivé de rencontrer quelqu'un qui n'avait pas les vêtements adéquats, et elle lui donne des jupes qu'elle portait. Elle recevait toujours, elle faisait parvenir des biens, du pain, du vin, des œufs, du bouillon, de la viande, des médicaments, des confitures, des vêtements, du bois, enfin toutes les provisions nécessaires à bien des gens. Hein, et chaque jour, elle faisait préparer une marmite pour les malades. Et parfois, il y en avait tellement que s'il n'y avait pas assez dans la marmite, alors elle se privait elle-même de son dîner pour que les autres aient à manger. À ce moment-là, elle ne se nourrissait que de pain. Et puis elle tout cela, elle l'offrait à Dieu. Elle le faisait vraiment pour la gloire de Jésus-Christ qui vivait dans cette personne qui était malade. Et là aussi, son confesseur, à un moment donné, il a réprimé cet excès de charité en lui ordonnant de manger avant qu'on distribuât la marmite. Hein, voilà, il disait, bon, c'est très bien ce que vous faites, là, c'est très bien, là, c'est excellent, mais bon, il faut quand même que vous mangiez. Donc, maintenant, je vous le dis, hein, avant de nourrir tout le monde, vous mangez d'abord. Et après, vous distribuez à tout le monde. Eh bien, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour la suite des événements. Merci, chers amis.